débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. L'équipe de France féminine de football affronte ce soir à Châteauroux la Russie. Le PSG a joué la finale de la Ligue des Champions la semaine dernière, perdu, mais télévisé sur une grande chaîne. Les bons résultats de ces dernières années et une volonté de la fédération parviennent à donner au football féminin une plus grande visibilité. La pratique du foot au féminin est également poussée par le nombre grandissant de jeunes filles qui veulent, elles aussi, taper du pied le ballon rond. Alors quel avenir pour le football féminin? On va en parler ce soir avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Dominique Crochu a été la première directrice de la Fédération de football en charge des nouveaux médias. Elle a été l'une des pionnières du développement du football féminin au sein de la Fédération. Elle est également membre du réseau européen Femmes et Sport, du think tank Sport et Citoyenneté. Bonsoir à vous, Dominique Crochu.
Bonsoir.
Et puis on attend Johan Aubois qui est dans les couloirs, qui court pour rejoindre le studio 31 de RFI. Il est journaliste à l'équipe et il couvre entre autres le football féminin. Il devrait arriver d'un instant à l'autre. En attendant, peut-être, Dominique Crochet, un petit peu d'histoire pour commencer. Depuis quand les femmes jouent-elles officiellement au football en France?
Alors, elles ont joué souvent au niveau de la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale. Après, ça a été interdit, comme beaucoup de choses pour les femmes dans ces générations. Et en fait, la Fédération a reconnu le 29 mars 70 la nouvelle pratique. Donc, en fait, c'est une pratique récente, c'est une quarantaine d'années. Et d'ailleurs, cette année, c'est le 40e anniversaire du premier championnat de France féminin. D'ailleurs, c'est la même année que RFI a été créé, d'ailleurs.
40 ans.
Le championnat de France.
Un bel âge. Johan Aubois nous rejoint.
Bonsoir.
Merci.
Bonsoir. Désolé
à vous. Mais pas du tout. À peine une deux minutes, ça n'est pas grave. On a fait un petit peu d'histoire avec Dominique Crochu du football féminin. Moi, j'aurais voulu vous demander, pour commencer, depuis quand le journaliste sportif fan de foot, probablement que vous êtes, s'intéresse au football féminin. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a provoqué l'intérêt pour vous?
Alors l'intérêt, il est venu en fait de mes chefs, tout simplement, parce qu'un jour on m'a demandé de couvrir la Coupe du Monde féminine en 2011. Je crois que je l'ai souvent dit à Dominique, j'avais pas d'intérêt pour le foot féminin comme beaucoup à l'époque. Et puis un peu par obligation au départ, et ensuite par passion, parce que on découvre un autre style de jeu, on découvre une autre façon de voir le football aussi, et j'ai été séduit petit à petit par ces joueuses.
Alors, qu'est-ce qui a suscité la passion plus précisément?
J'ai eu l'impression de retrouver une forme de football que j'avais connu quand j'étais enfant. Un peu le foot, alors c'est, faut pas que ce soit vu de manière péjorative, mais j'ai revu un football un petit peu plus lent, mais aussi plus technique, avec un peu moins de cinéma, un peu moins d'impact, un peu moins de contact. Donc voilà, j'ai été séduit par ce football qui était un peu plus léger, un peu plus pétillant à mes yeux.
Dominique Crochu, est-ce que l'avenir du foot féminin passe par sa médiatisation et donc par la presse sportive que représente Johan Aubois ce soir et qui est majoritairement masculine?
Alors évidemment que pour moi le débat est plus large, parce que quand on parle du foot féminin, on pense à la pratique. Alors bien sûr qu'il faudrait une récurrence plus systématique des radios, des télévisions sur les résultats par exemple, parce que la retransmission des matchs n'est pas que cette médiatisation. Il faut faire beaucoup plus, et aujourd'hui c'est le silence quasi complet. Quand on sait par exemple que dans la presse écrite en général, le sport, alors évidemment le foot est dedans, les sportives ne seront citées que 82% et 98% les hommes. Donc c'est dire, les femmes ne sont pas encore dans les médias de façon récurrente.
Mais il faudrait qu'elle le soit davantage, pour la promotion du sport, pour sa visibilité.
Oui, le sport lui-même et aussi la gouvernance, parce qu'aujourd'hui, quand on dit que le sport est féminin, on parle du foot féminin, le basket féminin, pour moi, le sport n'a pas de sexe, il n'y a pas du masculin et du féminin. Bon, bien sûr que le sport a été fait et créé par les hommes, pour les hommes, il est géré aussi encore majoritairement, mais aujourd'hui, si le sport de demain, enfin pour moi, l'avenir du sport, c'est une ouverture beaucoup plus grande à des femmes qui pourraient gérer d'autres dossiers aussi que sport et femmes, plus de diversité et plus d'intergénération. Je pense que la gouvernance du sport en France manque beaucoup d'ouverture.
Alors restons sur la médiatisation, Johan Aubois. Vous avez beaucoup de consoeurs dans le métier. Et comment se passe l'accès, je dirais, aux rédactions? Comment vous sentez l'accueil des femmes dans ce métier d'homme?
On a de plus en plus de consoeurs. J'ai pas le sentiment qu'il y ait une volonté chez nous, comme dans d'autres médias, de dire on prend que des garçons parce que le foot c'est les garçons. Il y a de là par exemple la Coupe du Monde va être suivie par chez nous Claire Gaillard, donc c'est une jeune femme. Je vais l'accompagner, donc voilà, on va travailler en binôme sur cette Coupe du Monde. On aurait pu dire on envoie deux garçons parce que ils connaissent mieux le football, ou au contraire deux filles parce que c'est du foot féminin donc faut mettre des filles. On a choisi de travailler en binôme, donc je pense qu'on voilà, on arrive à trouver un équilibre. Alors évidemment, après, ça dépend aussi des écoles de journalisme. On travaille beaucoup avec des jeunes sortis des écoles de journalisme. Il y a quelques années, c'était majoritairement des garçons qui sortaient. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de filles, même elles sont majoritaires dans les écoles de journalisme.
Ça reste un phénomène nouveau quand même.
Reste nouveau, bien sûr.
Il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas de femmes dans les rédactions sportives des journaux.
Parce que c'était lié justement à la formation. On avait beaucoup de garçons qui faisaient des écoles de journalisme ou Sciences Po. Aujourd'hui, c'est un phénomène inverse. Donc je pense que d'ici 5, 10, 15 ans, il y aura de plus en plus de jeunes filles dans les rédactions.
Alors, PSG, Lyon, c'est les deux grands clubs français de foot féminin. Ce sont des sections féminines de clubs masculins, on va dire. Est-ce que l'avenir du foot féminin passe par les clubs masculins, Dominique Rochu ?
Ça dépend de quel avenir on parle. Si on parle de l'avenir de... Là, effectivement, vous avez raison, ce sont des sections professionnelles, en fait. Alors, si on veut effectivement avoir une élite qui avance, on peut penser effectivement que la solution sera par les clubs professionnels. Mais aujourd'hui... Est-ce qu'on est prêt à ça? Je pense qu'on a 85 000 licenciés. C'est encore une pyramide qui est fragile parce que c'est pas encore beaucoup. On voudrait déjà, en fait, on a 40 ans d'existence et on voudrait avoir un football aussi performant professionnel comme les hommes qui ça existe depuis 100 ans. Aujourd'hui, la division 1, qui est la division la plus haute de France, n'a que quelques clubs à section professionnelle. Le reste sont amateurs. On a des budgets, je dirais, entre 300 000 euros et 7 millions d'euros. Donc, et là, c'est ensemble, quoi. Donc, on voit bien que là, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est encore fragile. Ça se construit, mais dans la durée. Et puis après, il y a aussi toute la base. Parce que avoir des professionnels, quand on a 85 000 licenciés, il faut agrandir la base. Et la fédération a mis en place beaucoup d'actions pour agrandir cette pyramide.
L'élite. C'est vraiment le PSG et Lyon. Les autres ne sont pas véritablement des clubs professionnels, Johan Aubois.
En termes de budget, oui. Après, il y a d'autres clubs qui tirent leur épingle du jeu. Je pense à Juvisy, qui est un club historique et qui a un autre modèle économique, peut-être plus semi-professionnel qu'amateur ou professionnel. Je pense à Montpellier aussi, qui est l'émanation d'un club de foot garçon, masculin. Monsieur Nicolin, le président, a très vite été le premier à vouloir mettre de l'argent dans sa section féminine. Donc il y a des modèles comme ça qui arrivent à exister au-delà de Lyon et de PSG. Parce que finalement,
il y a Guingamp aussi.
Et il y a Guingamp aussi, parce que finalement Lyon gagne tout depuis des années, le PSG seulement depuis 2-3 ans commence à avoir des résultats, mais sans forcément remporter de titres. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire encore dans le foot féminin.
Et est-ce que la Fédération Française de Foot joue le jeu de la promotion du foot féminin, Dominique Rochu ?
Oui, je pense que l'arrivée de Noël Le Graët a été déterminante dans la nouvelle politique, parce que c'est une question de politique effectivement, en confiant le dossier de la féminisation, donc qui va plus loin que la pratique à Brigitte Henriquez, secrétaire générale. D'ailleurs, première femme secrétaire générale à la Fédération. On voit que ça se met en place, mais les choses n'évoluent pas si vite qu'on voudrait, qu'on l'espérait. On peut mettre plein d'actions en place, mais après, il faut que la base suive. Et il y a aussi beaucoup d'actions dans les écoles. Donc ça aussi, ce sont des pistes d'amélioration, mais qui vont payer dans 2, 3, 5 ans. Ça ne se fait pas immédiatement, quoi.
Comment on peut évaluer, alors, Yann Aubois, la progression de la pratique du football par les femmes ?
Dominique l'a dit, c'est déjà par la création de sections dans les clubs de foot il y a encore quelques années. Une jeune fille qui se présentait un mercredi après-midi pour jouer au foot, on lui disait, bah tiens, tu vois, là tu vas te changer dans le petit vestiaire parce que t'es toute seule. Aujourd'hui, il y a des équipes de plus en plus, Dominique, où on peut avoir 7, 8 filles. Donc on peut déjà faire un début d'entraînement, en tout cas, avec ces jeunes filles-là. Donc on commence à le mesurer là, en début de saison, régulièrement, il y a de plus en plus de jeunes filles. Donc déjà, on le constate comme ça.
Et quels sont les freins, alors, qui subsistent et qui empêchent le plein épanouissement du foot féminin?
Je pense qu'il y a plus de freins systématiques comme effectivement Johan le soulignait quelques années, mais c'est encore difficile dans beaucoup de clubs. Il y a encore des clubs qui sont, je dirais déjà, saturés par les garçons, des clubs de partout. Enfin là, parce que là on a parlé de l'élite, mais après quand on se remet, je dirais, autour des terrains partout, ben c'est difficile parce qu'il n'y a pas assez de terrains souvent. C'est une question de manque de dirigeants, peut-être pas assez de filles encore qui osent franchir le pas ou qui viennent. C'est pour ça que le plan de vouloir aussi avoir plus de femmes aussi dans tous les clubs de football, ça aussi c'est une arrivée qui serait intéressante, je pense, pour la féminisation aussi.
Donc les commissions fédérales, régionales, départementales sont à forte majorité masculines,
manifestement. Ah oui, là les commissions, c'est
99%, et puis ils ont tous 70 ans, non, à peu près.
Alors ça, j'ai pas été vérifier les cartes d'identité.
Non, mais ça participe aussi. Voilà, les changements de mentalité changeront aussi avec une nouvelle génération de jeunes dirigeants qui seront peut-être plus ouverts à la pratique du foot féminin. Souvent, il y a des gens un peu plus âgés qui vont dire « Ah, qu'est-ce que vous nous embêtez avec votre foot féminin ?» Ouais. Parce qu'ils ne l'ont jamais connu, tout simplement.
Bah, est-ce qu'il faut mettre en place alors une politique d'ouverture, une parité, des quotas, comme en politique ?
On ne voudrait jamais cela parce qu'on se rend compte que c'est difficile, et puis il faut quand même avoir la conscience que c'est tellement difficile déjà d'être président de club. Moi j'ai été présidente de club après ma carrière à la fédération pendant un certain temps à Vendenheim, mais bon, c'était un club de garçons et de filles, même s'il est beaucoup plus connu par les féminines. Mais il y a tellement de soucis au quotidien. Voilà, c'est gérer les matchs, gérer les aspects logistiques, etc. Et quand les clubs ont déjà cette charge-là, rajouter encore des féminines, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut avoir de plus en plus aussi de femmes, ouvrir le maximum pour qu'elles puissent gérer d'autres choses, d'ailleurs forcément que les féminines, hein, je dis pas du tout, mais il faut encore plus de bénévoles, plus de gens autour pour pouvoir accepter, pour pouvoir ouvrir encore plus. Souvent, c'est un manque de moyens, mais humains, c'est pas forcément et de terrain.
Vous seriez, vous, favorable à l'imposition de quotas, de parité, non ?
Non, ce serait contre-productif parce qu'on se retrouverait avec, par exemple, des jeunes filles qui n'auraient pas forcément toutes les compétences, et ce serait l'occasion justement pour tous ceux qui dénoncent le foot féminin de dire, bah, vous voyez, celle-ci, on l'a mise parce qu'elle faisait partie des quotas et elle ne remplit pas sa mission. Mmh. Donc ce serait contre-productif.
Bon, comment ça se passe à l'échelle mondiale, alors ?
Alors moi j'avais regardé un petit peu parce que c'est quand même RFI quand même.
Ah,
donc
bah oui.
Voilà. Alors au niveau mondial, il y a quand même 29 millions de filles qui jouent au football, donc c'est pas mal. Et ce qui est assez intéressant, parce qu'en fait voilà, là on va reparler de la place de la femme dans le monde. Et par exemple, je regardais à nouveau un documentaire sur l'Afghanistan. Par exemple, c'est la première année il va y avoir un championnat national pour la première fois. Leur équipe féminine existe depuis 2006. C'est encore dans énormément de pays, et tant mieux, un levier aussi d'émancipation. Récemment, il y a eu avec l'organisation Plan des opérations au Ghana pour pouvoir effectivement œuvrer dans ce sens-là. Donc ça, c'est, par exemple, les Jeux africains qui auront lieu en septembre 2015, je suis pas sûr que les gens pensent qu'il y a aussi les équipes féminines qui joueront. Il y a les équipes masculines, mais il y a les équipes féminines.
Le Cameroun a une bonne équipe.
Absolument, ouais, donc ça c'est important.
Bon, il y a quand même une grande disparité dans le monde entre, on va dire, l'Occident, Europe, États-Unis et le reste du monde, non ?
Ouais, c'est lié à la culture aussi. On pense aux pays scandinaves spontanément, mais c'est aussi parce qu'ils ont une culture plutôt protestante, avec une place de la femme qui est différente. Donc on voit la Suède, la Norvège qui depuis des décennies maintenant a l'habitude. L'Allemagne, pareil, il y a quoi 2 millions, c'est ça, de pratiquantes, je dirais pas de licenciées, mais de pratiquantes, Dominique, en Allemagne.
En Allemagne, oui. Alors maintenant, j'ai revérifié, le nombre de licenciés est annoncé à 250 000 licenciés.
Ouais, c'est pour ça que je parlais de pratiquantes avec
c'est
les écoles.
Puis le système de calcul est pas tout à fait pareil, puisque on sait que quand on a une licence, on l'a un peu à vie. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a quand même presque 15 millions de plus d'habitants en Allemagne que chez nous, déjà. Donc,
mais en tout cas, il y a une tradition, il y a une volonté de faire pratiquer les jeunes filles, aux jeunes filles le football. Mais on voit en Italie l'autre jour, le président de la Ligue amateur a tenu des propos plus que désagréables en disant on va pas encore redonner de l'argent à ces équipes de lesbiennes. Et la réaction a été d'annuler la finale de la Coupe d'Italie. Donc voilà, dans les pays latins, c'est un peu plus compliqué de développer le foot féminin. Mais en Espagne, ça commence à apprendre.
Si, en Allemagne, il semble qu'on soit très en avance sur la France en matière d'intégration des filles dans le monde du football. Quelles seraient les explications alors?
Alors, je pense que c'est un pays plus sportif déjà, enfin, je veux dire, d'origine et de culture. On a toujours fait plus de sport à l'école en Allemagne, il y a plus d'ouverture. Quand on voit d'ailleurs les palmarès de l'Allemagne, c'est très impressionnant sur tout ce qu'elles ont trusté en Jeux Olympiques, en Coupe du Monde, en Championnat d'Europe. Mais parce qu'il y a une culture plus ancienne. Je pense qu'elles ont commencé le football avant la France. Alors nous, on est toujours un peu entre le latin et...
Et les Alsaciennes aussi ont été des pionnières en France, hein.
Le football club de Vandenheim, que j'ai présidé, était effectivement...
Les toutes premières joueuses, vraiment, avoir pris le...
Un petit coucou à Marie-Lou Duringer, voilà.
Et l'équipe nationale allemande est très suivie par la population allemande.
Ouais, mais c'est vrai aussi en Suède. Voilà, ouais. En Suède, dès qu'il y a un match de l'équipe suédoise, ça fait des audiences incroyables. C'est aujourd'hui vrai pour la France, hein, maintenant, un match de l'équipe de France. Même une rencontre amicale, il y a quelques années, ça aurait fait 100, 200 000 téléspectateurs. Maintenant, c'est le million quasiment assuré.
Quelles sont les perspectives de haut niveau de la FIFA, la Fédération Internationale, pour donner davantage de visibilité au foot féminin?
Alors justement, la FIFA vient de sortir un plan de développement 2015-2018. Parce que effectivement, je pense que tout le monde voit l'intérêt aujourd'hui d'ouvrir le football. C'est pas, alors on peut dire, oui, c'est parce qu'ils veulent plus de licenciés, etc. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience des hommes qu'on ne peut plus rester enfermé et qu'il y a effectivement des plans de développement sur les arbitres, sur les coachs, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais quand même en 2014, on a eu quand même deux femmes en France qui se sont distinguées, Corinne Diac qui a entraîné le club de Ligue 2 masculine à Clermont-Ferrand, et Stéphanie Frappard qui pour la première fois a arbitré toute la saison en Ligue 2, pardon, et je pense que ça c'est une sacrée avancée aussi.
Bon, alors, que dire, et peut-être pour finir, des clichés qui continuent d'affecter le foot féminin? Trop lent, moins bon niveau que les garçons, moins spectaculaire, tout ça.
Ça, c'est les gens qui l'ont pas vu, ça.
Non,
surtout
ceux qui l'ont vu, quand Johan Aubois.
On ne demande pas si Sharapova peut battre Nadal. On cherche pas à comparer, voilà, c'est le même sport. Et j'ai envie de dire, ce sont presque deux disciplines différentes. Moi, je prends autant de plaisir à regarder un Marseille-Lyon chez les garçons qu'un Lyon-PSG chez les filles.
Voilà. Vous aussi, vraiment le foot des garçons.
Ah ben non, mais je suis passionné par le football. Justement, moi, je suis passionné de football et comme je suis passionné de plusieurs sports, et il n'y a pas garçon-fille, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, dans le football, on veut comparer autant. Moi, j'ai fait du hand.
Parce qu'on aime bien parler, on aime bien débattre autour du football plus peut-être qu'autour du tennis ou de l'athlétisme.
Mais justement, pourquoi le football n'a pas réussi à faire ce qu'a fait le tennis, par exemple, ou la natation? Vous évoquez le tennis, Johan Aubois, est-ce qu'il parviendra à établir cette espèce d'égalité médiatique avec peut-être des compétitions simultanées?
Alors, écoutez, il faut du temps. Aujourd'hui, l'équipe de France va disputer la Coupe du Monde, là, au mois de juin, au Canada, juin-juillet, j'espère que c'est au mois de juillet. C'est la 7e Coupe du Monde. En 2014, c'était la 20e Coupe du Monde pour les garçons. Donc, c'est trois fois. Enfin, donc, laissez-nous encore trois fois du temps nécessaire.
Et le calendrier des sports est différent aussi. C'est-à-dire que le football, ça revient toutes les semaines. Les matchs de l'équipe de France, des équipes de première division féminine, ça revient toutes les semaines. La natation, c'est les grandes compétitions. On parle des grands manodou, etc. Quand il y a les championnats du monde, quand il y a les Jeux Olympiques, le reste du temps, on en parle un petit peu moins. Et c'est vrai aussi pour les jeunes filles. On en parle beaucoup pendant les grandes compétitions, mais pour le football, c'est plus compliqué de le faire toutes les semaines.
Alors justement, ce sera du 6 au 7 juillet au Canada.
Du 5 juin au 6 juillet.
J'ai noté, c'est ça?
C'est ça.
Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe alors, des Bleus en...
Elles ont un premier tour a priori facile. Après, ça peut se compliquer. Il y a un quart de finale contre les Allemandes qui peut se profiler.
Il y a déjà un huitième avant.
Oui, enfin, ouais, mais moi, je pense au quart de finale. Le huitième normalement, ça doit passer aussi. Et après, voilà, je suis un peu plus inquiet sur le quart de finale contre les Allemandes.
Alors, un petit mot rapide de ce match amical France-Russie ce soir. On en parlera dans l'équipe demain. On le verra à la télé.
En tout cas,
ce soir, il est sur des 17 à 21h.
Voilà, et nous, on a notre envoyé spécial, Claire Gaillard, qui a fait aujourd'hui un papier de présentation de ce match et qui va faire un compte-rendu demain.
Bon, moi, je serai devant mon poste, c'est sûr. Merci à tous les deux. Dominique Crochu, première directrice de la Fédération de football en charge des nouveaux médias et l'une des pionnières du développement du foot féminin, et Johan Aubois, journaliste à l'équipe qui couvre, entre autres, le foot féminin. Merci également à Florence Ponce, qui a préparé cette émission, à Fabrice Violet, qui l'a réalisée, et à Emmanuel Sévin, à la documentation. manifestation. Lundi, on parle de l'eau à l'occasion de l'ouverture du Congrès mondial de l'eau. Ça va se passer à Édimbourg, en Écosse. Vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission sur notre site rfi.fr. Bonsoir à tous, un nouveau journal sur Radio France Internationale dans quelques secondes.